Ici en Région, le podcast à deux pas de chez vous, présenté par Émilie Mendoza et Raphaël Leralier.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Émilie.
Raphaël, je t'ai écrit un poème.
C'est gentil.
Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil.
Ronsard donc.
Donc oui, ce n'est pas de moi, bravo, d'accord.
Ronsard, donc le prieuré Saint-Côme aujourd'hui, Émilie ?
Évidemment, le prieuré Saint-Côme demeure de Ronsard, situé à La Riche, en Touraine, et nous accueillons aujourd'hui Vincent Guido, responsable du lieu.
Bonjour.
Bonjour Vincent.
Merci de m'accueillir.
Avec plaisir pour ce podcast en partenariat avec le Conseil départemental d'Indre-et-Loire. Alors je parlais de Ronsard, c'est vraiment la première figure qui vient à l'esprit quand on connaît un petit peu le prieuré Saint-Côme. Quel est son lien avec le lieu ? Il y a vécu longtemps ?
Assez pour désirer y être enterré, parce qu'en fait simplement il y a écrit, donc il y a passé 20 ans précisément. 20 ans c'est peu dans l'histoire du lieu, mais c'est 20 ans marquants puisque c'est un poète reconnu, visité par la reine, le roi, au prieuré même. Donc c'est forcément une période importante pour le prieuré.
Et donc lui, si on resitue l'époque, pardon, c'est quelle reine, quel roi ?
Alors Catherine de Médicis, l'épouse d'Henri II, défunt, et donc les fils Charles IX et Henri III qui se sont succédé. Voilà, Charles IX a donné le prieuré Saint-Côme à Ronsard.
Ah, j'allais vous demander comment il avait atterri à Saint-Côme.
Donc en mars 1565, Ronsard arrive et il sera inhumé dans le lieu le 28 décembre 1585.
On lui donne les clés et hop, il est tranquille ou il a une mission sur place ?
Alors il a une maison qu'on visite aujourd'hui, qui permet une certaine autonomie, indépendance, d'accueillir les visiteurs qu'il souhaite. Alors c'est dans le monastère, mais c'est quand même une petite enclave, voilà. Donc il accueille qui il souhaite, il a le rythme de vie qu'il souhaite. Et il intègre évidemment des moments de la vie du monastère, donc a priori l'église le matin, peut-être un repas partagé avec les moines, mais l'écriture, voilà, l'écriture le matin, la promenade l'après-midi, voilà, mais ça peut être aussi la chasse, le jardinage.
Pas mal de choses.
Donc le prieuré Saint-Côme, on l'aura compris, est très lié à Ronsard, en tout cas ce qu'on en retient aujourd'hui. D'ailleurs 2024, c'est l'année Ronsard. Est-ce qu'il y a des manifestations prévues, organisées pour, à l'occasion de cette année Ronsard ?
Alors 2024, c'est les 500 ans de la naissance de Ronsard, voilà, le 11 septembre. C'est un moment particulier. La dernière fois qu'on a célébré Ronsard, c'était en 1985. Donc voilà, et puis le prochain ne sera pas tout de suite. Donc évidemment, c'est l'occasion de faire des choses, de proposer des choses qu'on n'a pas encore faites jusque-là. Et notamment, on prépare une exposition autour de Ronsard et les artistes pour mesurer quelle a été la réception un peu de Ronsard à son époque évidemment, mais aussi ensuite au 19e ou 20e siècle. Ce qui donne cette image. Alors on a commencé par ça,
hein. Oui.
Mignonne, allons voir si la rose, qui donne cette image d'un poète courtisan qui aime bien les femmes, alors qu'évidemment c'était une poésie un peu de gagne-pain, obligatoire à l'époque pour percer dans le milieu. Et il a percé très vite. Alors il a toujours écrit des poèmes amoureux, mais il a aussi écrit beaucoup d'autres choses.
Qu'on redécouvrira donc.
Et donc l'exposition sera l'occasion. Puis aussi de réunir des noms, parce que c'est-à-dire que si je vous dis Dali, Matisse, Ronsard, que je vous parle de Lalique aussi, parce qu'il y a des vases qui ont été faits sur le nom de Ronsard. En fait, on s'aperçoit que, même en 1924, quand on a célébré son anniversaire des 400 ans, il y a eu des créations artistiques incroyables. Donc on va essayer de montrer tout ça.
L'occasion de les redécouvrir. Et vous disiez qu'il n'a vécu qu'une vingtaine d'années au prieuré Saint-Côme. L'histoire du lieu, elle remonte loin dans le temps, beaucoup plus loin que sa présence à lui.
Elle remonte à l'an 1000, si on veut parler des moines. Si on se projette un peu plus loin, on trouverait certainement des paysans pêcheurs qui étaient installés sur une île. Donc imaginez une île dans le cours de la Loire, en fait, où la ressource principale, c'est évidemment le poisson. Et en fait, les moines vont créer une pêcherie. Voilà, ils vont vraiment développer une grande pêcherie, comme il y en avait quelques-unes autour de Tours. C'est une pêcherie de Saint-Martin, donc elle sert à nourrir en priorité les moines de Saint-Martin de Tours. Et ensuite, évidemment, il y a des terres labourables, il y a des terres qui sont très fertiles en bord de Loire, il y a des vignes sur les coteaux. Enfin, on a tout un territoire, à peu près 50 hectares, qu'évidemment, aujourd'hui, on ne visite plus. Aujourd'hui, il reste voilà, 1,5 hectare visité.
Ouais.
Et évidemment, cette île s'est rattachée à la terre. Donc, un peu moins bucolique. On ne traverse plus la Loire pour arriver jusqu'à l'île de Saint-Côme. On arrive à pied, à vélo, en voiture.
Et ce prieuré dépendait justement de Saint-Martin ou il était indépendant?
Alors il est dépendant de Saint-Martin doublement, puisqu'en fait ils n'ont jamais été assez pour nommer eux-mêmes leur prieur.
Aha.
Donc même leur chef était nommé par l'abbaye de Saint-Martin à Tours. Voilà.
Et aujourd'hui de tout ce bâti du monastère, il reste quoi?
Alors il reste la maison de Ronsard, qui elle est de 1350 et qui n'a pas été bombardée, puisque... Le prieuré a été aussi bombardé en partie en 1944. Et puis les autres bâtiments sont le réfectoire notamment, qui demeure, une partie de l'église avec le tombeau du poète et une partie de l'hôtellerie. Voilà. En fait, tout ça est lié au départ des moines en 1742 et à leur volonté de récupérer des matériaux.
Voilà. Donc, ils récupéraient les pierres.
Ils récupéraient des pierres, des ardoises, des tomettes.
Est-ce que j'ai le droit de dire qu'on déshabillait Pierre pour habiller Paul?
Ah, mais on ne l'avait pas encore fait, ça. Alors,
c'est dit.
Voilà, écoutez, c'est fait. Mais c'était, oui, c'est dans la veine du temps de se servir dans des lieux qu'on va quitter de toute façon pour en réparer d'autres. Voilà.
D'accord.
C'est le recyclage.
Et il y a des beaux jardins aussi à l'heure actuelle qu'on visite. Ils étaient dans cet état-là ou c'est une création contemporaine?
Alors les jardins, ceux qu'on visite aujourd'hui font suite à des fouilles archéologiques qui ont eu lieu en 2009-2010. Et en fait, ce sont des jardins d'inspiration vraiment monastique, mais vus d'une manière contemporaine.
Mmh.
C'était notre souhait de réinterpréter des symboliques, des usages qui sont plutôt d'ailleurs liés à l'utilitaire. En fait, les jardins des monastères étaient utiles pour se nourrir, pour se soigner, et puis symboliquement, effectivement, on enterre des moines sous des arbres fruitiers, et donc on a aussi essayé de rejouer ça d'une manière contemporaine, mais aussi pour faire en sorte que le public soit curieux des plantes qu'il rencontre, et pas forcément juste dans un jardin d'agrément où on a juste à tourner l'œil et tout de suite on a une fleur qui
Il y a un côté pédagogique un petit peu dans cette visite.
Je pense qu'on a envie de dire que notre lien avec les plantes, on commence à le comprendre, mais doit être différent. Voilà.
Mm-hmm. Et les fouilles archéologiques, qu'est-ce qu'elles ont mis à jour?
Alors elles ont révélé le plan du monastère qui était enfoui, parce que je vous ai parlé de l'île de Saint-Côme, mais imaginez que tout ça en fait a été remblayé au fil des siècles pour se protéger des crues, parce que les crues de la Loire étaient une menace pour les moines. Et donc ces remblais, on les a supprimés et on a découvert les murs des bâtiments disparus. Donc on a réussi à refaire des liens entre les bâtiments entre eux. Donc aujourd'hui, on circule vraiment là où marchaient les moines, sur les mêmes niveaux. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est la découverte des espaces d'inhumation. Donc on a trouvé plusieurs cimetières, au total 450 tombes.
Il y avait du monde.
Voilà. C'était qui ces personnes?
Alors 450 sur 6 siècles, c'est pas beaucoup.
C'est pas tant, voilà. D'accord.
Et puis ces personnes, ce sont des religieux principalement. Alors,
qui vivaient sur place et qui étaient inhumés sur place.
Voilà, on peut dire qu'il y a deux familles. Il y a les religieux qui mangent à leur faim tous les jours, qui ont un rythme de vie réglé, ils vivent plutôt longtemps. Certains jusqu'à 90 ans, au Moyen-Âge on peut vivre longtemps. Et puis une autre catégorie qui vont être des gens du peuple, peut-être soignés dans le lieu... et qui, eux, travaillent la terre et qui ont des pathologies liées au travail de la terre, donc des fractures, etc. Et donc des gens qui meurent jeunes, voilà.
Vous disiez soigner dans le lieu, le prieuré Saint-Côme, saint patron des chirurgiens, dédié au saint patron des chirurgiens.
Oui, alors ça c'est une grande histoire aussi, parce que Côme et Damien sont des Syriens à l'origine. Voilà. Mais c'est deux médecins syriens, donc la Syrie n'existait pas encore, mais c'était une province romaine, et ils soignaient les gens gratuitement. Voilà. Et leur culte s'est diffusé très largement dans toute l'Europe, et quand ils ont été martyrisés, évidemment, leurs reliques ont été ensuite dispersées dans plusieurs lieux en Europe. Il y a beaucoup d'églises en Italie qui portent les noms de Côme et Damien. Donc c'est des jumeaux, c'est pour ça qu'on les dissocie jamais. Donc l'un est plutôt pharmacien, l'autre est plutôt chirurgien. Et voilà, donc on dit que Grégoire de Tours aurait déposé sur l'île de Saint-Côme, qui va prendre le nom de Saint-Côme, des reliques de ce saint syrien. Voilà. Et donc, sans doute avec la volonté d'attirer dans ce lieu bah, des gens qui avaient besoin d'être soignés. Voilà. Alors, les moines en premier, mmh. et puis en deuxième, peut-être une population locale.
Donc, c'était une des vocations du site, de soigner les
oui,
autres.
C'est la vocation, je dirais, même principale. Alors, je pense qu'elle fonctionne tant que les pèlerinages fonctionnent aussi très bien. Et puis ensuite, ça va devenir une pratique voilà, peut-être plus centrée sur les religieux eux-mêmes. Quoi. Voilà. Mais on a trouvé notamment des gens qui ont subi des opérations, des trépanations du crâne au XIIIe siècle, qui ont survécu aux opérations.
Ah, quand même.
Voilà, on en a cinq... qui sont collectors, c'est une collection très rare de trépanés. Voilà.
Des forces de la nature.
Alors oui, je ne me demandais pas comment on les endormait et comment ils étaient opérés concrètement, quelle substance on leur faisait avaler. Mais...
Et est-ce qu'ils avaient encore toute leur tête après la trépanation ça...
Je peux juste vous dire qu'ils étaient vivants.
Vincent Guido, on a parlé de Ronsard, du côté site monastique, des gens qui étaient soignés sur place. Aujourd'hui, comment vous mettez en valeur ces différents aspects dans la visite, dans les espaces qui sont visitables par le public ?
Alors effectivement, le prieuré, il est un peu multiple. Hein. On peut entrer par plein de portes. Le jardin est un point d'attraction à part. Et je pense qu'il fait aussi le lien entre les différents thèmes qu'on vient d'évoquer, parce que Ronsard jardinait, se soignait avec les plantes. Il en cite 350 dans son œuvre qu'il connaît bien, précisément. Et effectivement, dans les usages des religieux, les plantes sont là tout le temps. Voilà. Que ce mmh. soit à table, que ce soit évidemment pour se soigner. Donc le jardin fait ce lien. Et après, je dirais que le regard que nous, on essaie aussi de porter, c'est pas de plonger les gens forcément dans l'époque, mais c'est de partir de notre époque pour... essayer de comprendre quelque chose du passé. Quoi. C'est aussi la raison pour laquelle on accueille beaucoup d'expressions contemporaines, que ce soit la danse, que ce soit des artistes plasticiens, parce que on défend cette idée qu'il y a des dialogues qui nous amènent à nous questionner voilà, sur ces lieux qu'on pense connaître. Et finalement, notre rôle, c'est vraiment toujours de questionner. Voilà, parce qu'en fait, je me rends compte que même la science progresse sur des choses qu'on pensait acquises. Voilà, moi, j'ai très longtemps fait visiter cette maison et en disant mais la maison de Ronsard, elle est du XVe siècle, parce que des compagnons charpentiers me disaient mais c'est une charpente du XVe siècle. Mmh. Et la datation qu'on a fait pendant les fouilles avec les archéologues, avec le principe de la dendrochronologie, on date les cernes du bois, font que cette maison, elle est aujourd'hui datée entre 1348 et 1352, donc vous voyez, c'est pas la même chose.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est une maison qui a été construite en plein milieu de la grande peste qui a ravagé toute l'Europe. Donc en fait, ça raconte d'autres histoires et ça nous montre aussi qu'on construit une maison en 4 ans, que les bois qui sont mis en œuvre sont des bois, avant on nous disait que les bois étaient séchés pendant des siècles avant de s'en servir. Aujourd'hui, on sait que voilà, les bois sont mis en œuvre très jeunes, qui sont coupés même relativement jeunes et qu'on utilise vraiment le cœur du bois, par exemple. Il y a beaucoup de choses à réinterroger, en fait, dans ces lieux.
Vous disiez qu'il y avait des manifestations culturelles qui étaient organisées au prieuré. Donc, c'est quel type de manifestations et depuis quand ça se passe
alors
au prieuré Saint-Côme ?
On a forcément une participation attendue toujours au Printemps des Poètes. Donc, la saison débute toujours en mars avec voilà, des spectacles de poésie, de musique, parce que voilà, on essaie aussi toujours de faire dialoguer la poésie avec les autres arts. Donc, ça, c'est toujours un moment privilégié du début de la saison, des partenariats beaucoup avec justement des lieux qui proposent de la musique contemporaine, que ce soit le Petit Fauché ou le Temps Machine. Et puis en danse, on accueille le CCNT pour Tour d'Horizon, chaque année début juin. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai proposé à partir de la réfection du jardin. En fait, on s'est trouvé face à des nouveaux espaces et en fait... J'ai vu tellement, je crois, de squelettes que j'avais envie de voir des corps en mouvement. Et donc, depuis 2016 maintenant, voilà, on a ce partenariat avec le CCNT. Et puis voilà, on accueille chaque année un artiste plasticien. Alors parfois, ils sont en résidence, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur place dans le lieu en rencontrant le public. Ils montrent des étapes de travail. Et d'autres sont accueillis sur des propositions qui sont réalisées en extérieur et qu'ils présentent dans le lieu, mais très souvent voilà, on essaie de montrer aussi ce que c'est que la création,
Et comment vous choisissez les artistes que vous accueillez? Ils présentent un dossier, c'est des thématiques spécifiques qui vous intéressent?
Alors, il y a des thématiques qui sont, qui vont un peu d'elles-mêmes. C'est-à-dire que la thématique du papier, par exemple, évidemment, elle traverse à la fois l'activité de Ronsard et celle des moines qui sont aussi des copistes. Et voilà. Donc, il y a des affinités avec des matières qui sont plus évidentes que d'autres. Et après, oui, les artistes présentent des dossiers. Et en fait, le travail, c'est vraiment toujours de faire un lien. Voilà. C'est pas gratuit d'aller poser une œuvre d'art dans un lieu patrimonial. Faut pas que ce soit posé comme ça, gratuitement, et sans explication non plus. Donc, le rôle de mon équipe et des médiateurs, c'est toujours d'aller chercher d'où vient cette technique, comment on peut l'amener aux gens, comment essayer d'entrer, en fait, dans l'univers de l'artiste, mais aussi même concrètement, quoi. Là, cette année, par exemple, on a accueilli un artiste qui a utilisé un procédé qui s'appelle le cyanotype, un procédé ancien de photographie. Donc, on a fait des ateliers, les gens ont réalisé des cyanotypes à partir des plantes du jardin, etc. Donc, on essaie toujours de rentrer dans l'univers de l'artiste de cette manière-là. Puis après, les thématiques, elles peuvent emprunter à la fois au Moyen-Âge, à la Renaissance, elles peuvent mettre en avant des techniques. On avait fait une très belle exposition sur ce qu'on appelle communément le trompe-l'œil, avec un artiste qui s'appelle Georges Rousse, donc qui sont des anamorphoses, le mot technique. Bon l'anamorphose, c'est né au XVIe siècle. C'est vraiment une technique que les peintres du XVIe ont comprise en manipulant la perspective. Donc c'est raconter quelque chose aussi d'une époque.
Ouais, faire le lien entre aujourd'hui et l'histoire.
Voilà. Ouais. Et ça a lieu tout au long de l'année.
C'est tout chaque année, il y a une proposition contemporaine. On essaie évidemment de se renouveler et de changer de thématique. Ouais.
Et là, 2024, on le disait, on fait le lien entre passé et présent à travers la figure de Ronsard pour les 500 ans de sa naissance. Vous avez une grosse équipe pour tout ça, pour gérer le lieu, faire visiter, mettre en place les expositions?
Jamais assez grosse l'équipe. Non, en fait, on est 4 permanents, plus 2 jardiniers. Voilà, on est 6 vraiment à vivre dans le lieu, j'irais pratiquement comme au temps de Ronsard.
Voilà. Il vous manque les robes de bure.
Par contre, on n'a pas tous les... On n'a pas tous les toutes les personnes qui travaillaient autour, parce qu'en fait très souvent on sait quelles sont un peu les personnes les plus notables dans le lieu, mais on ne sait pas tous les gens qui travaillent pour le lieu, mais on est 6 permanents et on est plutôt des historiens en général, mais chacun avec son domaine quand même. Moi je suis géographe par exemple.
Ah oui, donc. J'avais envie de dire rien à voir, mais ce serait un peu...
Rien à voir ou tout à voir, justement.
Et donc, le prieuré Saint-Côme, on le rappelle, donc situé à La Riche, à proximité de Tours, donc en Touraine, une région où il y a des grosses locomotives en termes de monuments, Chenonceau ou d'autres. Comment le prieuré Saint-Côme arrive à trouver son public, à capter son public, et combien de visiteurs par an se rendent sur le site, à peu près?
Alors, on accueille entre 20 et 25 000 visiteurs par an. Alors, effectivement, nous, on focalise vraiment sur notre identité. C'est-à-dire que ce n'est pas un château de la Loire, ça n'est pas un jardin de la Renaissance. Par contre, le personnage est un personnage de la Renaissance. Mais ça n'est pas Léonard de Vinci. Bon, mais je peux continuer très longtemps. Donc, en fait, il y a aussi cette idée vraiment de travailler sur le caractère unique du lieu. Voilà. C'est un poète, la poésie du XVIe siècle, c'est une langue pas facile, mais on travaille à partir de ça, on essaie de découvrir chez cet auteur ce qui peut encore aujourd'hui nous toucher. En fait.
Et en mettant en avant aussi peut-être les jardins et toutes les manifestations qui sont organisées également, contemporaines.
Tout ce qui peut faire en fait qu'on se sente accueilli. Moi, je pense que la différence par rapport à un grand site, c'est-à-dire que très souvent dans les grands sites, vous êtes dans un flux de personnes, vous n'avez pas le temps de vous arrêter, il n'y a pas grand monde qui vous parle. Et en fait, nous, on essaie de jouer ça, en fait, la proximité. Il y a des sièges dans le jardin, on peut rester très longtemps. Il y a des fauteuils suspendus dans les arbres. En fait, l'idée, c'est vraiment de proposer au public, comme on est aussi près de la ville, d'être dans une espèce de bulle,
d'un espace-temps
un peu à part. Voilà. Donc, on joue beaucoup sur la question, évidemment, sensorielle. Voilà.
Écoutez, on ira cultiver nos 5 sens au prieuré Saint-Côme, demeure de Ronsard, très bientôt. Où est-ce qu'on retrouve toutes les infos pratiques, billetterie, horaires
Sur le site prieuré-ronsard.fr, qui est toujours à jour et de toutes nos activités. On retrouve, selon le visiteur, s'il est voilà, individuel ou scolaire, etc., peut venir découvrir le lieu. Il y a toutes les propositions qu'on fait, notamment de visites ludiques, parce qu'en en fait, il y a plein de petites portes d'entrée dans le lieu, mais notamment les enfants trouvent beaucoup de jeux. Voilà, pour découvrir aussi un lieu qui n'est peut-être pas fait à la base pour eux, en tout cas, c'est ce qu'on pourrait imaginer. Mais en tout cas, les gens viennent vraiment de plus en plus en famille. Et ça, voilà, c'est aussi l'accent qu'on a voulu donner à ce nouveau, ce lieu revu avec le nouveau jardin. C'est aussi voilà, d'élargir un public aussi plus jeune.
Merci Vincent Guidot de nous avoir fait visiter avec ce podcast le Prieuré Saint-Côme. Et puis Raphaël, nous on continue nos visites des monuments du département dans de prochains épisodes.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup Vincent Guidot.
Merci de votre accueil.
Au revoir. Au revoir.
Merci de suivre Ici en Région, le podcast à deux pas de chez vous. À la technique Dev, présenté par Émilie Mendoza et Raphaël Loralier. Retrouvez tous nos podcasts, vidéos, articles et magazines sur icienregion.fr. À bientôt.